RFI et France 24 présentent.
Hello la famille, bienvenue dans Légendes Urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Un sourire est une clé secrète qui ouvre bien des cœurs ». Et je peux vous garantir que notre hôte du jour en a ouvert des cœurs grâce à son humour tout au long de son existence. Artiste éclectique, il n'est pas simple de le classifier, de le catégoriser. Une chose est sûre, c'est que c'est un poids lourd. Animateur radio et télé, musicien, humoriste, comédien, réalisateur, scénariste et producteur, son fil conducteur est pour sûr la bonne humeur. Véritable catalyseur de belles énergies, il sait véhiculer la lumière sous toutes ses formes et via mille formes. En gros, il distille depuis toujours. Nous remémorons par la même occasion notre BO d'adolescent, notre culture commune, nos socles universels passant de. Ah! Sans oublier d'ajouter à sa playlist une pincée de Maloya, car il n'oublie pas la Réunion, sa terre d'origine. Alors voilà, aujourd'hui je suis ravie, même si ma tâche n'est pas aisée, car c'est le légendaire intervieweur qui sera interviewé. Mais comme le dit si bien Kiri,
le combat est grand, la victoire est immense.
Il nous fait l'honneur de sa présence dans les studios de Légendes Urbaines à l'occasion de la tournée française de son spectacle Emmanuel 2 et de son Dôme de Paris exceptionnel prévu pour le 26 novembre prochain. Messieurs, dames, juste pour vous, l'homme qui punch plus vite que son ombre, l'enfant paillé, alias Manu Payet Koutsa.
Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit.
Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine.
Manu Payet dans les studios de Légendes Urbaines. Manu, bienvenue chez toi.
Merci Juliette. On dit Fievet ou Fievet?
On dit Fievet. On en discutera de ça, mais même discutons-en tout de suite.
Si tu veux.
Parce que ça a quand même fait l'objet d'une polémique. C'est relou. T'es arrivé en métropole. On a voulu. Alors, on t'a dit Payet. On a voulu t'appeler Alex, même à un moment donné.
Ouais, ouais.
Et en fait, tu t'es retrouvé dans un truc où, malgré toi, les gens ont mal prononcé. Moi, les gens, ils disent souvent Fievet, tu vois.
Ah bon?
Ouais.
Ça, c'est dingue.
Ouais,
Ils ont inversé
le problème. Exactement. Ouais. Mais sauf que toi, tu t'es retrouvé aussi dans une situation, et j'aurais bien aimé que t'en parles, même si c'est en règle directe. Allez, on y va. Parce que finalement, à La Réunion, certains t'ont un peu accusé de vouloir gommer volontairement tes racines ou tes origines.
Oui. Après, au départ, tu prends ça très, très mal. Mm-hmm. Parce que comme beaucoup de réunionnais qui se respectent, je suis gros cœur. Mm-hmm. Gros cœur, ça veut dire susceptible. Mm-hmm. Et donc, j'ai dit, what? Mais en fait, il y a seulement un Payet qui sait que quand il arrive en métropole, ça va être Payet toute la journée.
Mais oui.
Si t'es un Waro, ce qui est un autre nom créole hyper répandu, comme par exemple Guillaume Waro, le footballeur, t'as moins ce problème, en fait. Mm-hmm. Juste, ils disent Oaro. Ils disent pas Waro, comme nous on dit Waro, tu vois. Mais bon, tu sais que t'es en France. Donc, moi, je me disais pas, je pensais pas à ce que c'était important qu'il faille que je fasse reprendre à chaque fois les gens. Donc, au bout d'un moment, tu lâches et puis tu mets ta créolité ailleurs. Ça fait pas de toi un gars pas créole. Tu vois. Mais je comprends aujourd'hui que ça ait pu énerver des gens ou faire de la peine à ma mère.
Ouais.
Alors que c'était elle qui m'avait dit, ici on dit comme ça.
Ouais. Bon, les choses sont remises en place. En tout cas, je pense que de plus en plus, les gens t'appellent Payette. Et puis c'est surtout Magnon, on va revenir sur tes débuts. Tu es né donc sur l'île de La Réunion. Ton papa travaillait chez Air France, paix à son âme. Il est parti il y a quelques années maintenant. Ta maman, infirmière enseignante et catéchiste.
C'est bon.
Quand on est élevé dans la foi, parce que ta maman a fait aussi de la foi une profession, est-ce que ça te sème des graines en particulier? Est-ce que ça te conditionne à certaines choses?
Bien sûr. Malgré toi aussi, parfois. La culpabilité.
Flagellation.
Ah bah là, clairement. La culpabilité, elle est là tout le temps et il faut soit s'en accommoder, soit s'en débarrasser... pour pouvoir faire ce qu'on fait. Sinon, il y a des choses même qu'on n'écrit pas. Et puis sinon, ça, c'est le côté un peu... Ça peut être un peu l'inconvénient. Mais sinon, le fait de croire, c'est magnifique. Tu n'es pas obligé de croire comme ta mère t'a dit qu'il fallait croire ou comme le temple dans lequel on t'a emmené toute ton enfance, les livres t'ont dit qu'il fallait croire. Mais croire tout court, pour moi, c'est merveilleux. Et je n'ai pas envie d'arrêter de croire, parce que moi, on ne m'a pas que forcé à croire. On m'a aussi insufflé la beauté que pouvait avoir la croyance. La croyance, c'est beau de croire en un truc qu'on ne voit pas. Y en a qui vont trouver ça un peu bête, un peu naïf. Moi, je trouve ça carrément beau. Et c'est Gad Elmaleh qui a dit dans son spectacle, il y a deux spectacles de ça, je crois, qui a dit « Moi, je suis croyant, il faut une foi inébranlable pour ne croire en rien. » Et j'ai trouvé cette phrase géniale.
C'est magnifique, c'est une punch. Magnifique. Mais parce que c'est une croyance aussi d'être athée, de ne croire en rien.
Exactement.
En réalité. Et parfois, ils peuvent être... Il y a aussi des extrémismes chez les athées, en fait.
Ne pas en démordre.
Ouais.
Eh ben, c'est aussi un peu croire. Croire qu'il n'y a rien, c'est croire en un délire.
Bien sûr.
Finalement, on peut jouer à ça aussi. Mais croire, c'est magnifique.
Ta mère était au service, parce qu'enseignante infirmière, déjà, c'est un doublon, c'est une doublette.
Ouais.
Plus le catéchisme a été dans la transmission. Ton papa, c'est un guerrier. J'ai cru comprendre, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, il a travaillé donc chez Air France, mais dans une interview, il me semble que c'était celle de Combini Small Talk, qui était vraiment super d'ailleurs, bravo.
David Castello-Lopez.
Ouais, vraiment. Bravo à David, parce que bel, beau format, en fait. Il me semblait que tu disais que ton papa avait vendu des glaces sur la plage.
Mon père a commencé sa vie, effectivement, en vendant des glaces pour Mico. Voilà. Et il les a tellement bien vendues, apparemment, qu'il a fini comptable chez Mico. Il a dit, bon, Payette, il vend bien les glaces. Maintenant, il va les compter. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont dit, mais voilà. Et puis un jour, bien des années après, mon père avait un bac G. Donc c'était un bac, à l'époque, c'est devenu...
C'était commerce STT, voilà. etc. Ouais.
Et puis ensuite, Air France a installé un bureau à La Réunion pour des Réunionnais qui sont dans l'océan Indien. Qu'Air France vienne là, c'est Air France. Dans Air France, il y a France.
Bien sûr.
Donc mon père a postulé en tant que comptable et puis il a été pris. Et mon père est devenu comptable chez Air France Réunion. Donc déjà, rien que ça, pour là d'où il venait, mon père, c'était déjà fou dingue. Et quand tu as dit guerrier, ça m'a beaucoup touché, parce que mon père s'est effectivement battu toute sa vie contre ses démons pour pouvoir mettre... Il a fini par mettre une cravate pour pouvoir nouer sa cravate le matin. Derrière une cravate, on peut cacher plein de trucs. On ne cache pas que son ventre. Qui dépasse. On cache aussi parfois un passé un peu encombrant.
Ou un syndrome de l'imposteur, par exemple.
Exactement. Et donc, il a mis sa cravate tous les matins pour aller à Air France, dont il était devenu le directeur du fret. Directeur du fret d'Air France Océan Indien.
C'est impressionnant.
Et je peux te dire que c'est très impressionnant. Très impressionnant. Très, très impressionnant. À son enterrement, j'étais très ému. aussi une forme de fierté. Il y avait tout le staff d'Air France Réunion en uniforme AF. Et c'était juste beau, quoi. Et je me disais, putain, la classe. Et je sais que de là-haut, il devait se dire,
voilà, regardez, j'ai réussi.
Eh oui, pas mal.
Eh oui, pas mal.
Donc je pense qu'il. Je suis toujours. Toujours très admiratif de la réussite professionnelle de mon père, qui a réussi à réussir, pas tout, mais qui a réussi à réussir des choses et sauter des obstacles et des fossés infranchissables pour lui, là, de là où il venait.
Je ne suis pas réunionnaise, mais je connais ton île.
Tu es déjà allé ?
Oui, plusieurs fois, la Réunion sans le, faire des concerts là-bas, magnifique, le piton de la Fournaise, bien sûr. Il y a une vraie particularité, parce qu'on parle de créolité, mais évidemment, on peut parler de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, mais chaque lieu géographique a sa petite spécialité. D'une, vous êtes aussi proche du continent africain, et puis il y a une espèce de mélange d'un autre monde, en fait, avec des Indiens, avec des créoles, avec les oreilles. Et je me dis qu'être réunionnais, c'est aussi être encore plus ouvert d'esprit. Bien sûr que dans les Caraïbes, tout est mélange dû à l'esclavage, etc. Ouais, mais là, il y a réellement énormément de communautés avec des religions complètement différentes qui cohabitent. Et je me dis qu'être réunionnais, ça a quand même sa force à avoir une certaine ouverture d'esprit quand même, parce qu'on n'est pas sur une religion commune, on n'est pas... Il y a quand même des horizons hyper différents.
C'est la transmission, merci de dire ça, parce que je m'en serais voulu de ne pas l'avoir dit. La transmission de, pas uniquement nos parents, mais le fait d'être réunionnais, c'est le vivre ensemble. La Réunion est effectivement au carrefour, un carrefour de la route des épices, à la base. Et donc, sont passés par chez nous, et parfois s'y sont arrêtés pour toujours, eh bien, des Chinois de la province de Canton, des Indiens,
Nouvelle-Zélande,
le Pakistan, il y a certainement des... Et puis, de l'autre côté, les gens qui allaient de l'autre côté.
Ouais.
Et tout ça s'est croisé et resté pour beaucoup à la Réunion, et s'est métissé, et on est arrivé nous. Voilà. Bon, je rends joli, hein, y a eu plus moche. Hein.
Ouais.
Y a eu l'esclavage à la Réunion,
bien sûr,
qui était aboli en 1848 chez nous. Donc, j'ai toujours été habitué à... Enfin, cette histoire de vivre ensemble, je ne l'ai comprise que quand je suis arrivé ici, en fait.
Voilà. Parce que pour toi, c'était normal, en fait.
Oui, je me dis, vivre ensemble, c'est-à-dire quoi, vivre ensemble avec ma famille ? Non, avec les autres communautés. Communautés, bah, les religions. Ah bah oui, bah, c'est nos voisins. Mais je comprenais même pas ce qu'on voulait me dire, en fait.
T'as un parcours qui est incroyable, parce que tes parents, je cut a long story short parce que tu l'as raconté 100 fois, mais à l'âge de 15 ans, t'as un goumin, comme on dit en Côte d'Ivoire, t'as une peine de cœur, en fait. Tu te sens pas bien, ok, l'école, oui, mais bon, tout pas trop. Et tes parents sont tellement inquiets pour toi qu'en fait, ils t'envoient en Afrique du Sud pour étudier dans un pensionnat que pour garçons, sauf qu'en fait, c'est à une certaine époque quand même. Et c'est dingue parce que tu vis l'élection de Mandela, tu te retrouves là-bas, quoi. Et ouais, on est quand même dans un contexte où il y a des Afrikaners, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. Donc, tu as raconté plein d'anecdotes, encore une fois, très drôles, avec le crapaud, etc. C'était rigolo, et voilà. Mais
il y avait des gentils Afrikaners, hein.
Mais il y en a, tu vois. Enfin, c'est pas si manichéen, il faut être nuancé.
Ouais, ouais, ouais.
Mais tu arrives quand même à une époque, à une période. Comment tu vis ça, t'as 15 ou 16 ans, et là, tu vois l'élection de Mandela, quoi. Et
ouais,
tout ce que ça comporte.
Le jour de l'élection, je suis allé accompagner quelques copains, des Noirs et des Blancs. On est obligé de dire ça pour cette histoire.
Ah oui, mais bah, factuellement.
Et pour l'époque et le pays dans lequel je vivais, voter. Et il y a un copain à moi, blanc, qui s'appelait Gary Schoon, c'était le fils du principal de l'école. Et on était dans la queue, il attendait son tour. Et puis après, tu allais t'inscrire, signer, comme nous on fait. Et tu allais dans l'isoloir. Et il est allé demander à la dame qui s'occupait d'accueillir les assesseurs. Et il dit, mon copain, il est français, il est de l'île de la Réunion. Il faut qu'il vienne avec moi dans l'isoloir. Ah bah non, c'est interdit. Mais madame, il va voir l'histoire de ce pays.
Ah,
il faut qu'il la voie de l'intérieur.
Sûr. Et l'histoire du monde, en fait.
Ouais. Et donc j'étais ici, à côté de lui, comme ça. Et avant de faire la croix devant Nelson Mandela, le parti, c'était ANC, African National Congress. Il m'a dit, mec, regarde ça, c'est l'histoire de mon pays, là, que t'es en train de voir sous tes yeux, là. Regarde ça, regarde cette croix, en faisant la croix. Il me dit, mec, regarde ça, bam. Il me dit, c'est sûr, ce soir, c'est lui, tout le monde. Et ça a été effectivement lui. J'ai vécu ce truc.
Ça, c'est incroyable. Tu vas toujours plus loin, tu pousses toujours les limites. Là, c'est un truc de fou. Tu vas faire donc le Dôme de Paris, c'est 4600 places. Quand même un peu de monde pour un spectacle d'humour. T'as une petite pression. Et t'as ce truc, alors peut-être qu'il vient justement de la flagellation. C'est-à-dire qu'en fait, t'as peur, t'es un grand flippé. Même des fois, tu dis non, c'est trop, peut-être on va arrêter. Ouais. Ça marche trop bien, on arrête. T'es en panique. Est-ce qu'on peut parler de
bien
ça ?
Bien renseigné, en tout cas. Oui, je sais pas trop. Non, mais je me dis...
La culpabilité ?
Ouais, la culpabilité, ouais, je pense. Il y a une partie de ça, ouais. Et puis, c'est les gens qui m'entourent, c'est mon équipe, c'est mon producteur, c'est... qui me disent, mais attends, Manu, tu fais ça pour faire du bien, hein, tu fais pas ça pour autre chose. Je fais, ok, d'accord. Et là, du coup, je reculpabilise d'avoir culpabilisé.
Putain, je suis vraiment une merde d'avoir pensé ça. Donc, vous êtes combien
il
dans ta tête ?
Il faut un nouveau fouet.
Vous êtes combien à peu près ?
On est deux, mais putain. Et donc je me dis, ok. Parce que c'est pas un truc tant d'ego. Je m'en fous. En fait, c'est parce qu'on a l'impression toujours que le gars ou la nana qui fait ça et qui s'affiche toujours dans des salles plus grandes, etc., une espèce de gourmandise de public ou je sais pas quoi, de renommée. Alors que moi, je n'aime pas du tout trop être connu. Je ne fais pas ça pour ça. Mais sincèrement, je ne fais pas du tout ça pour ça. Alors, c'est plus facile pour avoir une table au restaurant, ça c'est vrai. Et c'est le seul presque avantage que je peux trouver. Sinon, ça me met hyper mal à l'aise. Bon, il n'a pas l'air d'avoir envie de faire des blagues, le comique. Mais au wagon bar, on va à Clermont. Là, ce n'est pas le moment de truc. Je suis juste venu acheter un café, quoi. Donc, je ne fais pas ça du tout pour ça. Alors, parfois, il faut qu'on me rappelle que quand même, il faut quand même, pour pouvoir faire des spectacles, ce que tu as toujours eu envie de faire depuis que tu es gamin, mec, monter sur scène, avoir un micro et une lumière sur la gueule.
Bah oui.
Donc, on va te voir. Donc, tu risques d'être un peu connu. Donc, voilà, c'est toujours re-accepter la conséquence de la définition de mon métier.
Et puis, regarder l'évidence encore une fois. C'est-à-dire, en fait, au-delà de ton équipe qui te remotive, qu'est-ce qui te permet quand même de toujours relever le challenge et y aller quand même et se dire, bon, ok, je suis flippé, ouais, mais ok, bon, j'y vais. Est-ce que tu prends ce recul-là en disant, quand j'étais petit, c'est ça, c'est exactement ça.
Ouais,
ton spectacle
sûr.
Qui a été capté à La Réunion, justement, la première, je crois.
Ouais. Hein.
Enfin, je dirais, est-ce qu'à un moment donné, tu sors de ton corps et tu dis, oh, waouh, quand même, je l'ai fait, quoi. Et quand même, quand tu regardes dans le rétroviseur, même si tu me donnes pas l'impression de regarder énormément dans le rétroviseur, t'en as claqué les projets.
Oui. Je me le dis parfois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop regarder dans le rétroviseur et pas trop se dire « Waouh, j'ai fait ça ». Parce que finalement, quand tu as fait ça, toi, maintenant je sais plus d'où tu viens, etc. Tu viens du management, notamment de la musique. Et tout à l'heure, tu as osé me dire que tu n'étais pas journaliste ou animatrice alors que ça fait 15 ans que tu es là, etc. Tu m'as dit ça ?
Exact.
Mais c'était très joli d'ailleurs, très touchant, parce qu'on est un peu dans le même truc,
bien
chacun
sûr.
Fait son canal, mais chacun pense quelque chose de...
Bah, c'est le truc des autodidactes en
voilà,
fait,
voilà.
Je pense.
Donc à la fois, une fois que tu l'as fait, oui tu peux te dire, putain ouais, c'est vrai que j'ai fait ça, c'est cool, super, mais comme je l'ai fait, ben, je l'ai mis un peu à ma taille, à ma hauteur, je l'ai fait comme je pouvais le faire, si c'est un truc que je dois sauter, j'ai fait attention à mettre des bonnes baskets, etc. Enfin, je me suis préparé à faire le truc. Quand tu regardes un truc immense de loin, tu fais ça et il rentre là-dedans. Donc, parfois, je me dis bravo, c'est bien. Mais tout de suite, je regarde devant et un truc un peu plus... Parce que je crois que je culpabiliserais de me féliciter trop d'avoir fait un truc. Troisième culpable.
Allez, donc vous êtes trois finalement. Voilà, ben nous, en tout cas, on te félicite.
Ben merci.
Tu es un épicurien, tu en as parlé, tu parles de la bouffe, des bouffes que tu aimes faire avec tes amis. Tu étais le plus grand fan de cette série Chief's Table. Massimo Bottura, chef italien, c'est juste. C'est le Graal pour toi. T'es fasciné par la nourriture. On me dit qu'en plus, tu cuisines très, très bien. Y compris
Mais toi, t'es quand même grand spécialiste de la nourriture créole. Tiens, précisé d'ailleurs que t'es sur un... Là, tu fais un documentaire à La Réunion avec Sébastien Follin, autour duquel vous allez tester les meilleurs rougailles saucisses de l'île. C'est sur Canal+, je crois. Hein,
ouais,
voilà.
Exact.
Parle-nous de cette passion pour la gastronomie, parce que c'est une véritable passion. Je parle de Massimo Bottura, parce que tu vas jusqu'en Italie pour aller tester ce chef étoilé incroyable. Mais tu
c'était
fais
mon
pour,
cadeau de mes 40 ans que ma femme m'a fait.
De Gaulle.
De Gaulle.
Ouais, qu'on salue.
De Gaulle m'a s'est dit, pour ses 40 ans, il faut un truc. Et donc, on est allé au restaurant. Mais en Italie.
Pas n'importe lequel. Voilà.
Voilà. Chez un des meilleurs chefs au monde. Et c'était vraiment, c'était vraiment fou. J'aime toute la bouffe. J'aime pas que la gastronomie, les 3 étoiles, les Michelin, tout ça. Pas du tout. Sinon,
les cheeseburgers.
Ah, j'aime aussi, j'aime aussi un peu parfois la malbouffe. C'est vrai. Un côté un peu où j'ai l'impression de dire merde. Au truc sain, j'ai aussi ce truc-là. Je suis né en 75, hein, donc vraiment dans une...
Bien sûr.
Mais j'adore les gens qui font à manger. J'aime surtout ça, les gens qui font à manger et les gens qui parlent de leur bouffe. Parfois, j'ai même pas besoin de manger. Je discute avec eux et je suis rassasié. Je préfère traîner, clairement, avec des gens qui font de la bouffe ou du vin que souvent avec des gens qui font le même métier que moi. Parce qu'on est sur l'autre aussi, là. Et puis moi, je fais un métier qui s'adresse au plus grand nombre. C'est des salles de 2000 personnes.
4600, le dôme, et le 26 novembre 2025. 4600 personnes.
Merci de me le rappeler, t'as raison. Ouais, c'est clair. Là, alors on disait tout à l'heure, le mec qui rit pas. Donc, tu as toujours un gars qui rit un peu moins que les autres, ou machin, où tu te dis, ah, qu'est-ce qu'il a celui-là, et tu bloques que sur lui, alors qu'ils sont 2000 à se marrer. Et un chef, il vient, il t'apporte ton assiette à toi. C'est celle de Juliette, c'est la tienne. Et puis, il te la sert avec ce. Et cette espèce de.
Bon, c'est chaud.
J'espère que ça va lui plaire. Elle a kiffé, Juliette, vous avez vu ou pas? Il demande aux gens de la salle. Ouais, elle a kiffé. Ah bon, c'est vrai, elle a kiffé? Ah ouais, elle a dit que c'était très bon. Elle a dit ça? Ah, le mec, il est refait.
Puis c'est
une
de
assiette.
L'amour, c'est un truc de
t'imagines.
Fou.
T'imagines? Une assiette. Et
c'est de la science, c'est de l'amour, ouais. C'est tellement de choses.
Et à l'inverse, t'imagines, vous avez pas du sel? Ouais. Et le gars dit, putain, merde, j'ai pas assez salé l'assiette de Juliette. Et ça peut le... Moi, ça me bouleverse. Voilà, j'aime beaucoup ça. Et j'aime bien quand c'est bon aussi, un peu, accessoirement.
Accessoirement. Et puis, t'aimes aussi transmettre et t'aimes cuisiner pour tes amis. Et un dernier ami qui a accepté de participer. Bah ouais, ça aide jamais cette affaire.
Tu vois. Kevin n'est pas mort, envoyez un autre ami.
Voilà, encore un autre. Qui, en plus, m'a parlé de nourriture, je crois.
Bonjour à tous, bonjour Juliette, comment il est Manu? Qui ça ça? Où ça? Manu c'est mon dallon. Manu n'a le cœur sur la main. Manu c'est un bon marmaï. Manu c'est un bon vivant. D'accord, t'as en temps il fait rire. T'as en temps il fait la cuisine. T'as en temps il tourne film. Mais c'est un gars n'a le cœur sur la main. Créole rayonnée dans son cœur. La Réunion de son esprit. Quand il vient à La Réunion, il demande une feuille banane, carré fait de bois, il brûle les yeux, mais aussi une rougaille saucisse, attention. Mais Manu, n'y a mon bon pied. Et là, j'ai dit à la fille, Juliette, écoute ça, Juliette. Il conseille à vous de dire à Manu, cuisine un bon petit plat créole pour ouvrir le doigt, et moi-même le content. Manu, tu es bon ensemble, n'y a mon bon pied, mon frère. Oucha!
Oh, putain, les mecs. Ah ouais, carrément, quoi.
Monsieur Olivier Rast.
Merci
Lundigo.
Olivier. À moi aussi, Mémao. Voilà. Merci beaucoup. Alors là,
merci Olivier.
Waouh. Ah, il est formidable, hein.
Ah, mais puis en plus, quel artiste. Mais quel
écoutez
état
sa musique,
d'esprit.
Lundigo.
Et puis c'est tellement profond, c'est tellement spirituel, c'est tellement. Ça vient tellement des tripes de l'âme. Il fait de la musique pour l'âme.
Ah oui,
et
vraiment.
Pour les cœurs. Merci, Olivier.
Ah, merci, Olivier.
Merci d'avoir proposé à Manu de me faire des rougailles saucisses.
Ouais, c'est clair.
En tout cas, merci encore, Olivier Arast, grand monsieur.
Olivier, merci
Lundigo.
Beaucoup.
Merci pour ce message. Justement, avant de se quitter, il me reste 2 questions. Ton rêve.
Si j'ai un souhait, un rêve, pas perso, oui, ce serait ça, que tout se calme, que tout s'apaise un peu, tu vois. Que tout s'apaise un peu.
En tout cas, merci à toi de contribuer à l'apaisement à travers ton travail, à travers cette tournée dans toute la France. Le 26 novembre, je réitère, au Dôme de Paris. J'espère aussi sur le continent africain. On est suivi par des dizaines de millions de personnes dans le monde entier, sur tous les continents. Quel serait le message que tu aurais à passer ? Message universel.
Peace and Dakatine.
Mais ouais, mais
et, c'est... Et ça.
Ouais.
Ça.
Slow
c'est
down.
Vraiment... Putain, les gars, ouais. Essayons, quoi.
C'était un plaisir, vraiment, de te recevoir.
Merci, Juliette. Merci à toi.
Manu,
merci beaucoup. À toi,
vraiment.
À toute ton équipe.
Ouais, ouais, ouais. À la Dream Team, la famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour la version longue de l'émission avec Monsieur Manu Payet, au cours de laquelle on s'est raconté plein de choses fascinantes, parce qu'il est fascinant. Et puis, comme à l'habitude, l'équipe, eh bien, je vous dis paix, amour, lumière sur vous. One love Manu.
One love. Salut Juliette.
Yeah.
Se met ton case, se met mon case, ça il est.
Là-bas nous ça va aussi. Là-bas nous ça va aussi.
Oh, se met ton case, se met mon case, ça il est.
Là-bas nous ça va aussi. Là-bas nous ça va aussi.
Oh, se met ton case, se met mon case, ça il est.
Là-bas nous ça va aussi. Là-bas nous ça va aussi.
Oh, se met ton case, se met mon case, ça il est.
Là-bas, nous, ça va aussi.
On se met en case, on se met mon case, ça, il est.